Donc du coup, on parlait des larmes de Marie qui effectivement ne sont pas mentionnées explicitement dans la Bible, mais il suffit de voir les mères juives et pour voir à quel point elles étaient des grandes pleureuses, pour savoir que Marie est une femme juive. Il faut jamais oublier, comme on l'a fait pour Jésus, on a redécouvert Jésus dans son judaïsme dernièrement, et ça nous a beaucoup éclairé sur la vie humaine de Jésus. Parce qu'on ne peut pas juste comprendre la vie divine, il faut qu'on comprenne aussi son humanité. Et le fait d'avoir redécouvert Jésus comme juif, elle nous a beaucoup éclairé sur beaucoup de ses paroles, sur beaucoup de ses gestes, et sur beaucoup de ses attitudes. Donc, replaçant Jésus dans son contexte juif auquel il appartenait, on a compris beaucoup de choses sur sa personne. Et de la même manière, il ne faut pas oublier non plus que Marie est une femme juive. Et donc, elle appartient pleinement à Israël, pleinement. Et du coup, on peut comprendre Marie en regardant simplement une mère juive. Et donc, la maternité, donc dans cette culture, c'est une maternité qui est très forte, qui s'exprime pleinement, avec un lien très particulier entre la mère et le fils, en général, humainement. Et donc, on peut, sans trop d'erreur, dire que Marie a beaucoup pleuré la mort de son fils. Et puis, pas seulement, voilà, parce qu'il y a aussi, comme pour Jésus, il y a vous savez probablement que pour comprendre Jésus, il y a les typologies, c'est-à-dire on va parler d'Abraham comme préfiguration de Jésus, on va parler de Moïse comme préfiguration de Jésus, on va parler de Isaac comme préfiguration de Jésus. Et pareil pour Marie, quand on regarde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a beaucoup de femmes, mais pas seulement des femmes, qui annoncent Marie. Il annonce Marie, d'ailleurs, si vous prenez toutes les grandes femmes de l'Ancien Testament, vous allez être étonné, mais vraiment étonné. Il y a des livres, je vous renvoie là-dessus. Et à quel point il y a des reprises presque mot par mot d'une attitude que des grandes femmes de l'Ancien Testament ont vécue et de ce que Marie a vécu. Donc il y a vraiment un parallèle, comme on peut faire encore une fois entre Moïse et Jésus. On peut dire comment Moïse a annoncé Jésus. On peut dire comment Esther, Déborah, comment Rebecca ont annoncé Marie. Donc voilà, juste pour dire que aussi cette attitude de Marie, même si elle n'est peut-être pas dite directement de Marie, on peut la comprendre à travers soit l'humanité juive, soit les préfigurations dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau de Marie. Donc du coup, oui, Marie a pleuré. Et donc on disait juste avant, pour répondre à la question par rapport au cœur transpercé de Marie, donc oui, on est sauvé par la croix, on est aussi sauvé par le glaive qui a transpercé le cœur de Marie. Et c'est, au fait, Marie, c'est un peu l'icône de la prière. Marie nous est présentée dans l'Église comme vraiment icône et modèle de la vie de prière, donc toute la vie intérieure. Et donc, quand Siméon va dire à Marie, un glaive transpercera ton cœur pour que les pensées de beaucoup soient manifestées. Pour que, donc c'est vraiment la raison pour laquelle ce glaive transperce son cœur, au fait, c'est pour manifester nos pensées, pour que nos pensées secrètes viennent au jour. Et donc, du coup, Marie, c'est un peu toute cette. Et beaucoup de gens, je pense, en sont conscients. Dans les confessions, on entend beaucoup les péchés par pensée. Donc, j'ai péché par pensée, par omission, par action, par omission, vous voyez. Et donc, c'est péché par la pensée, donc qui reste très secret, très intérieur. Au fait, c'est par cette vie intérieure à laquelle nous invite Marie qu'on les identifie. Voilà. Donc, on était en train de dire effectivement que les larmes de Marie sont très particulières et il y a beaucoup de mystiques qui ont connu ces larmes, qui ont parlé d'un baptême de larmes. Et au fait, c'est quelque chose de très particulier parce que toutes les larmes ne se ressemblent pas. Toutes les larmes ne se ressemblent pas. Il y a vraiment des larmes de tristesse qui peuvent nous écraser et ça peut devenir quelque chose de très lourd et qui nous enlève la joie, qui nous enlève l'enthousiasme, qui nous prive de la vie. Ça, c'est des larmes, voilà, que on peut chercher à éviter, qu'on ne désire pas. Mais il y a des larmes et il faut les expérimenter pour savoir ce dont je parle parce que voilà. Mais on peut aussi intuire qu'il y a des larmes qui donnent la vie. Il y a vraiment des larmes qui produisent en nous une telle sensation de conversion, de douceur, qu'ils changent notre notre être et qui participe pleinement à notre, soit à la nôtre, soit à celle des autres. Ça sera à ce point-là. Comment certaines de nos larmes peuvent devenir des intercessions, peuvent devenir les plus belles prières devant le Seigneur. Et comment lui, vraiment, il accueille ses larmes comme une prière. Et typiquement, les plus belles des larmes, c'est les larmes que les mères versent sur leurs enfants. Et on a la grande figure qui est très très belle, pas beaucoup mise en lumière, mais qui mériterait, c'est les larmes de la veuve de Naïn. Les larmes de la veuve de Naïn, donc cette veuve qui obtient quand même, par sa douleur, la résurrection de son fils, la réanimation de son fils. Et c'est toute une préfiguration de Marie, évidemment. C'est toute une préfiguration de Marie. Et il est dit devant la veuve de Naïn que Jésus fut pris de compassion. Et au fait, parce qu'il a vu sa propre mère. Il a vu déjà sa mère devant lui au moment de sa passion. Et donc du coup, cette veuve de Naïn nous renvoie à la puissance de la maternité, à quel point la maternité est puissante pour donner la vie. Et donc, cette maternité à laquelle toute l'Église est invitée, et pas seulement les femmes, même si le cœur des femmes est un cœur duquel il faut beaucoup qu'on apprenne, n'empêche, l'Église est une mère dans son ensemble. Et du coup, elle est invitée à pouvoir aussi rentrer dans ce plan, à participer, vraiment, c'est vraiment le mot participer, au salut de ses fils, par la prière et par les larmes. Et donc la larme, ce qui sont symboles de la compassion. Et là, c'est aussi, c'est vraiment le maître mot, donc avec la passion qu'on a médité hier, le maître mot de ce matin, c'est compassion. Et comment nous, au fait, on n'est pas seulement appelé à porter la croix, ce qui peut être, dans certains cas, une invitation du Seigneur pour certains d'entre nous, à porter la croix, mais nous sommes sûrement aussi appelés à la compassion. À la compassion, c'est-à-dire prendre dans notre cœur les souffrances des autres, ouvrir notre cœur à la souffrance des autres. Et c'est pas du tout quelque chose qui nous écrase. Bizarrement, même si le monde croit que malheureusement, plus on reste tranquille, plus on évite de prendre sur nous ou bien d'écouter, c'est-à-dire que le problème des autres, on fuit un peu ceux qui ont peut-être des choses dures à nous raconter pour nous préserver. En fait, le christianisme nous en tient que c'est tout le contraire, que cette compassion, elle nous donne de la joie, elle nous donne de la légèreté, elle nous donne une paix. Quand j'écoute quelqu'un, alors évidemment après, il y a des gens qui exagèrent un peu peut-être effectivement, mais en dehors des cas un peu particuliers, la plupart des gens, quand ils partagent leur souffrance, il y a une telle dignité, il y a un tel soulagement dans le simple fait d'avoir dit ce qui les fait souffrir, devant un cœur qui accueille cette souffrance. Et nous avons juste à accueillir. Très souvent, les gens ne nous demandent pas ni des solutions, ni des réponses, rien du tout, juste une écoute et une écoute de compassion. C'est-à-dire que je prends dans mon cœur ta souffrance. Et c'est tout. Et cette attitude soulage tous les deux. Soit celui qui souffre, soit celui qui écoute, ça allège. Ça allège tous les deux. Et les mystiques disent, ce n'est pas non plus dans la Bible, mais on peut un peu se fier sur la vie des mystiques parce qu'ils étaient des gens très honnêtes, très priants, donc quelque chose, ils peuvent nous expliquer. Ils ont dit à quel point la grande consolation de Jésus sur la croix, c'était Marie. C'est-à-dire qu'ils voyaient que sa peine était reçue aussi dans le cœur de Marie. Et dans la grande épreuve de Marie, quand tout le monde va disparaître, qui va rester que les femmes avec Jésus. Dans les moments cruciaux, nous, les hommes, on est, comment on appelle ça, des fuyards. Dans les épreuves, on fuit. C'est ça, notre virilité. On fuit devant les épreuves. Et la vraie virilité des femmes, c'est qu'elles tiennent debout. quand il faut traverser les grandes épreuves, il n'y a que les cœurs des femmes qui arrivent à rester là. Et le disciple bien-aimé. Mais c'est un cas particulier dont on parlera. Mais ce sont les femmes. Et l'Évangile insiste beaucoup sur la présence des femmes au pied de la croix. Et le seul qui en parle d'une manière explicite, c'est Saint Jean. Et donc, du coup, et parmi toutes les femmes, la plus bénie parmi toutes les femmes, c'est Marie. Et donc, du coup, ce cœur de Marie est le cœur qui a soulagé, c'est trop dire, mais voilà, qui a participé à donner un tout petit peu de douceur dans l'infinité amertume qu'a dû traverser le Christ pour nous. Et du coup, Marie nous ouvre tout ce chapitre de la compassion et elle nous invite, oui, à suivre le Christ en portant nos croix, mais surtout à être à côté de ceux qui portent leur croix. Et donc, on a ces deux attitudes qui se complètent et qui sont un chemin de vie, qui sont vraiment un chemin de vie. Il faut l'Esprit Saint pour qu'on comprenne combien la compassion peut donner la paix, peut nous donner la paix, encore une fois. C'est-à-dire que la compassion n'enlève rien à notre sérénité. C'est pas parce qu'on écoute les misères du monde qu'on devient triste et abattu du tout. Du tout, du tout. C'est au contraire, plus on écoute les misères du monde et plus on a cette paix intérieure parce que on n'a pas fermé les yeux. Au moins pour ça. On a cette paix parce qu'on n'a pas regardé ailleurs. Et notre conscience, notre âme le sait, que on n'a pas regardé ailleurs comme font beaucoup, pour éviter de regarder les choses en face. Nous, on peut au moins regarder en face les choses. Et encore une fois, ça ne nous enlève pas la sérénité, ça ne nous enlève pas la joie, ça ne nous enlève pas l'espérance du tout. Dans l'Esprit Saint, c'est évidemment humainement, regarder toutes les misères du monde, c'est risque d'abattement très fort. Mais dans le Seigneur, regarder cela et être présent, c'est tout le contraire, c'est une grande consolation pour nous et pour ceux qu'on regarde ou qu'on écoute. Voilà, donc c'est un grand ministère, c'est une grande mission que le Seigneur confie à nous tous, à certains plus particulièrement, mais vraiment à tous les chrétiens, et que qu'on devienne ces êtres de compassion. Nous le sommes déjà. Mais il y a des fois, il s'est glissé chez nous et dans beaucoup de nos attitudes, un peu de devoir, c'est-à-dire on va aider, on va écouter, plus motivé par un sens du devoir assez aigu qu'on a tous. Mais là, il nous renvoie plus vers la compassion, vers le cœur, vers quelque chose qui accueille vraiment les émotions. Vous voyez, accueillir dans notre cœur les émotions de l'autre. Et prendre un peu de ce qu'il ressent avec nous, peut-être pleurer avec la personne. Vous voyez, c'est une femme qui a avorté, je donne souvent cet exemple parce qu'il me tient à cœur. C'est une femme vient avorter avant de commencer à. Parce que souvent, on a été tenté de la renvoyer vers ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vers le pardon, vers la confession, vers la pénitence. Oui, peut-être. Mais d'abord, il faut pleurer avec elle. C'est-à-dire, la première étape d'accueil qu'on doit avoir, c'est un symbole, pleurer avec, mais ça peut être réel. Mais je veux dire, c'est accueillir ce qu'elle vit dans son cœur. On ne peut accompagner quelqu'un que d'abord en ayant compris profondément les émotions, peut-être pas l'histoire dans tous ses détails, parce que ça reste très mystérieux, il y a des gens qui racontent voilà, des choses, on n'est pas nécessairement au courant de tout. Mais au moins, on peut savoir qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne, et dans quel état d'âme elle est. Et du coup, voilà, c'est un très beau ministère que Marie, que Dieu nous confie à travers Marie, qui est celui de la compassion. Et la chose très belle, encore une fois, c'est que ces larmes donnent vraiment la vie. Dans notre prière, des fois, alors qu'on est appelé à prier pour le monde, peuvent surgir des larmes sur telle ou telle autre situation, sur telle ou telle autre personne pour laquelle on prie. Ces larmes sont vraiment précieuses. Ce sont des larmes que le Seigneur écoute d'une manière pas quasi certaine, certaine. Il a promis, c'est le psalmiste qui dit: Recueille mes larmes dans ton outre, pour dire que Dieu n'oublie pas un peu ces larmes que nous pouvons verser par compassion, encore une fois, sur le monde, sur les personnes que nous aimons, sur les situations un peu difficiles. Ce sont des prières qui sont vraiment accueillies par le Seigneur. Et du coup, quand le Seigneur nous fait ce don, encore une fois, en distinguant bien les larmes, pas toutes sont porteuses de vie, mais ces larmes particulières, on sent leur douceur tout de suite. On sent qu'elles nous écrasent pas, qu'elles ne nous donnent pas ce poids de tristesse. Au contraire, ce sont des larmes qui coulent presque sans effort. Bon, voilà, ça dépend, mais voilà. En tout cas, le cœur de Marie, voilà, c'est ce cœur qui a donc été transpercé par le glaive et qui nous ouvre. Donc hier, on disait le cœur de Dieu nous a été révélé par le coup de lance, là, du coup, qui a transpercé le cœur de Jésus. Et le cœur de l'Église nous a été révélé, l'Église dans ce sens mystique, avec ce glaive qui a transpercé le cœur de Marie. Donc, voilà. On va pas être très très long ce matin, mais je vous renvoie juste aussi à beaucoup de mères donc, qui ont participé à la résurrection, entre guillemets, bon, dans l'Ancien Testament, c'était encore de la réanimation, mais à la très fameuse veuve de Sarepta, donc, qui elle aussi a pu obtenir, grâce à son intercession, que l'huile et la farine ne s'épuisent pas. Donc, à cette veuve de Sarepta, pour voir la puissance de la prière, combien la prière donne réellement la vie. Une mère qui prie, et encore une fois, la mère comme symbole, mais une mère qui prie obtient, comment dire, systématiquement, même si ce mot est un peu biaisé, parce que c'est comme si c'est des mathématiques, mais c'est pas ça. Mais pour dire que Dieu écoute toujours l'intercession des mères. Toujours, toujours, toujours. Et donc, les mères ont une puissance extraordinaire sur le cœur de Dieu. Dieu est tout-puissant et souvent on a dit que Marie est toute-puissante sur le cœur de Dieu. Et c'est pour ça, vous connaissez aussi la préfiguration de la reine à qui le fils roi accorde tout ce qu'elle demande. Voilà, donc d'être conscient de à quel point que les mères sont porteuses de vie pour le monde à travers leur prière. Et du coup, on a plein d'exemples. Donc, on a pris la veuve de Sarepta. Et puis après, donc, il y a aussi donc Élie et la résurrection du fils de la veuve. Vous savez, donc, je vais vous le lire. Après ces événements, il arriva que le fils de la maîtresse de maison tomba malade et sa maladie fut si violente qu'enfin il expira. Alors elle dit à Élie, que vais-je faire avec toi, homme de Dieu? Tu es devenu donc pour me rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. Il lui dit, donne-moi ton fils. Il l'enleva de son sein, le monta dans la chambre haute où il habitait, il le coucha sur son lit. Puis il invoqua Yahvé et dit, Yahvé mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à la veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir son fils? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, il invoqua Yahvé. Yahvé mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. Yahvé exauça l'appel d'Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et reprit vie. Donc voilà, c'est un peu cette histoire entre la femme et ce prophète, où encore une fois, c'est toujours cette intercession, cette figure féminine, qui encore une fois n'est pas nécessairement une femme dans la chair, mais toute cette féminité qui fait qu'effectivement, la vie revient dans cet enfant. Oui. Oui. Même si on ne voit pas de fruits. Oui. Oui. Alors ça, c'est la grande épreuve de la prière. C'est que ça, c'est vraiment la grande difficulté de la prière, c'est que c'est pas quelque chose, ça dépend beaucoup de celui pour qui on prie aussi. C'est-à-dire que aucune prière ne va perdue, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui peut s'imposer à la personne pour qui on prie. C'est-à-dire que le Seigneur va attendre le moment opportun pour que cette personne soit prête. Donc lui aussi, il attend. Ce n'est pas que Dieu nous fait attendre. On imagine que Dieu, mais pourquoi tu n'agis pas? Mais il n'agit pas parce que lui aussi, il attend. C'est-à-dire que lui aussi, il attend le moment opportun pour que, il puisse donner la grâce qu'on a accumulée, ce n'est pas un bon mot, par la prière. Vous voyez?
Mais comme dans la maladie, si on prie pour quelqu'un qui est malade
Oui,
et qu'il
qui s'en va.
n'y a pas de guérison,
Alors.
ensuite, est-ce que la prière a été écoutée?
Alors ça, c'est un thème un peu particulier, mais c'est bien, il faut qu'on l'aborde. C'est-à-dire que, alors pour nous, et pardon parce que je dis des choses qui sont, voilà, un peu délicates, qui sont vraiment, pour nous, la vraie vie, c'est la conversion. C'est-à-dire que quand on sent que quelqu'un a accepté Dieu, même au dernier moment, comme le bon larron, on rend grâce à Dieu. Ah, vous voyez, c'est-à-dire la guérison physique est très importante, il faut qu'on la demande tout le temps, mais Dieu n'a pas promis ça. Il nous a pas promis ça. Il nous a promis de le connaître et de vivre éternellement avec lui. Mais il a jamais promis, et du coup on peut pas lui dire pourquoi tu l'as pas fait, d'accorder tout le temps systématiquement la guérison physique pour mille raisons qui seraient trop longues maintenant d'évoquer. Des fois il l'accorde. Et il faut toujours la demander. C'est-à-dire que sachant cela, il faut toujours commencer, comme on a dit hier, par demander la guérison. C'est la première chose qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas tout de suite passer à, voilà, sauf grâce particulière. Mais il faut aussi accepter que cette guérison particulière qui est celle du corps est exceptionnelle et qu'elle est donnée comme signe pour la conversion des autres. C'est-à-dire Jésus, il guérit des fois des personnes physiquement, et c'est en permanence comme ça, seulement pour dire aux autres, vous voyez que je suis capable de donner la vie, croyez en moi. Et parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est la foi. Et du coup, le plus important, quand on a prié pour la guérison physique, de aussi accepter que c'est une des possibilités qui n'est pas que Dieu n'a pas écouté, mais que c'est pas ça ce qui serait meilleur pour tout le monde par rapport à la guérison physique. Par contre, la conversion, ça, on peut la demander. On peut presque l'exiger, évidemment, il y a l'autre qui doit l'accepter, la personne pour qui on prie. Mais du coup, la vie de la foi, ça, c'est une promesse de Dieu. Parce qu'il a promis de donner l'Esprit Saint à qui le lui demande ça, il l'a dit. Il a dit, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai, et combien plus quand vous demandez l'Esprit Saint. Donc là, il y a une promesse. Donc là, il l'a dit. Il n'a jamais dit, si vous priez, je vais vous guérir physiquement. Il l'a fait, mais il ne l'a jamais promis. Par contre, le don de l'Esprit Saint, c'est une promesse. Donc là, on peut lui dire, tu m'as promis. Oui.
On pourrait dire que c'est résumé la phrase qui dit demandez, vous recevrez.
Oui.
Ça résume tout ce que vous avez dit là.
Oui, exactement, exactement. Et surtout par rapport au don de l'Esprit Saint. Parce qu'après avoir dit cela, il précise que la demande la plus importante qu'on doit lui adresser, c'est de donner l'Esprit Saint. Et il a promis, et c'est ça ce qui est merveilleux quand on a compris que quand on a l'Esprit Saint, on manque plus de rien. Il a compris, il a promis de donner toujours l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Donc là, on a une promesse dite par Dieu d'accorder toujours l'Esprit Saint. Alors après, il dit pas quand, parce qu'encore une fois, comme on disait, il y a la disposition de la personne. Si moi je suis le père du fils prodigue, là, on va en parler. Si moi je suis le père du fils prodigue et j'ai prié que mon fils revienne, il faut attendre que le fils dépense tout son argent, qu'il devienne dans la misère, que lui-même il se retourne dans son cœur pour qu'il reçoive la grâce de cette motion qui va le faire ramener au Père. C'est pas parce que tout de suite il va recevoir cette grâce, il faut que lui soit disponible. Donc vous voyez, Dieu lui-même attend. Il nous fait pas attendre à nous. Lui-même, il attend le moment opportun pour toucher le cœur de la personne pour qui on a prié. Vous voyez, donc c'est pas juste Dieu qui nous fait attendre comme ça, juste parce que il a d'autres choses à faire. Oui.
Dans la Bible, il y a un passage que j'ai toujours trouvé difficile, c'est Jésus sur la route, loin de la région habituelle.
Oui.
Il y a une femme qui arrive vers lui et qui lui demande de guérir son fils et qui crie, puis en deux, trois fois, Jésus dit non.
Ah, c'est la femme syrophénicienne. Oui.
Ça me fait quelque chose.
Alors ça c'est un peu, encore une fois, c'est un peu, ça fait partie un peu de la pédagogie de Dieu parce qu'au final il le fait. Et donc déjà elle est guérie quand même. Et, mais bon, lui, alors là c'est un peu de l'interprétation, mais c'est vrai que Jésus à ce moment-là, il insiste beaucoup sur qu'il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Donc c'est pour ça il dit d'abord les fils. D'abord les fils, parce qu'ils sont d'abord appelés. Et comme ils ne vont pas répondre, on connaît la suite de l'histoire, alors il va ouvrir à tous les autres, mais ils ont droit à la priorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est eux quand même, on oublie à quel point on leur doit infiniment, infiniment. Et du coup, il y a beaucoup de... Alors, je n'ai pas pris parce que c'est dommage, mais c'est très beau, le cantique des cantiques qui nous parle de Marie beaucoup. Et elle dit, je vais emmener mon bien-aimé dans la maison de ma mère. Et donc à un moment, la bien-aimée dit, je vais emmener mon bien-aimé à la maison de ma mère. Et donc c'est Saint Bernard qui interprète ça en disant, bah, c'est l'Église qui ne rêve que d'une seule chose, que Israël, sa mère, parce que Israël est la mère de l'Église, et donc du coup que Israël reconnaisse le bien-aimé, l'époux de l'Église, que pour l'instant, voilà. Vous voyez, donc du coup, il y a cette priorité pour Israël parce qu'on leur doit énormément. On leur doit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne parle pas d'Israël, le pays, on parle voilà. Et du coup, on leur doit vraiment beaucoup. Et peut-être que là, c'était juste une manière de remettre ça à la lumière et pas pour empêcher les prières d'une mère que finalement a été exaucée, oui. Voilà.
Dans notre église, c'est comme ça aussi, de la préfiguration du Jacques.
Oui.
Mais moi, je suis très habitée par celle d'Agar et de l'enfant
Oui.
qui est resté au bord de la source, parce que cette femme-là, démunie, impuissante, peu importe, dans la situation, pouvait pas l'amener au bord de la source pour qu'il revive. Alors, quelle préfiguration faites-vous
De Hagar.
d'Agar et de l'enfant Ismaël qui veut dire Dieu entend? On en parle beaucoup, puis moi, ça me fatigue de voir qu'on ne donne pas la place dans notre église
Agar.
à Agar et à l'enfant qui est là, qui attend pour voir.
Ouais, je sais pas
Puis
si je
ça
dois
me
vous dire ce que je
fatigue
dois vous
parce que moi,
dire.
j'attends de voir
Parce
ça.
que c'est un
Il y a
peu.
plusieurs d'entre nous ici qui sont
Ouais.
concernés par cette parole.
Ouais. Je vais juste vous dire ce que dit Saint Paul, parce que Saint Paul, on parle de Agar, au Galates 4, je pense. Voilà, un instant que je retrouve. Et voilà. Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la loi, n'entendez-vous pas la loi? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, donc Agar. Celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Ces femmes représentent deux alliances. La première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude, c'est Agar, car Sinaï est en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui de fait est esclave avec ses enfants. Voilà, donc ça devient une allégorie pas très belle.
Mais qui est très vrai dans
qui est...
notre monde d'aujourd'hui.
Oui.
Moi, en tout cas, je ne rencontre que celle-là la
Oui.
plupart du temps.
Mais n'empêche, et là, en disant cela, il faut quand même qu'on rappelle, même si c'est un peu en dehors, mais bon, comme vous avez évoqué la question, c'est impressionnant le nombre de promesses que Dieu fait à Ismaël.
Oui,
C'est-à-dire que
oui.
si je vous lis une promesse que Dieu a faite à Ismaël, sans vous dire que c'est Ismaël, vous pensez que c'est Isaac. Il deviendra grand, puissant, 12 princes sortiront de lui, il sera, voilà, il y a des promesses impressionnantes sur Ismaël. Et du coup, ces promesses, on perd le fil, effectivement, d'Ismaël dans la Bible. On le retrouve de temps en temps par les Ismaélites, qui vont être le peuple qui va, par exemple, emmener Joseph en Égypte. Donc, vous voyez, ils reviennent, les Ismaélites, par plusieurs moments dans la Bible, mais on ne raconte pas l'histoire des Ismaélites, c'est les histoires des Isaacites, qui n'existent pas le mot, c'est-à-dire que du peuple de l'Alliance, quoi. Et puis, c'est là où je ne sais pas si je dois dire, on les retrouve dans un autre livre, les Ismaélites.
Oui, allez.
C'est-à-dire que les musulmans se considèrent comme descendants d'Abraham par Agar et par Ismaël. Voilà, du coup, ça nous renvoie à une autre, voilà, de... Et c'est très étonnant, cette, effectivement, cette autre race, race dans le sens de, voilà, qu'on perd dans la Bible, on ne les retrouve plus du tout, alors qu'on a une promesse pour eux, on a une vraie promesse pour Ismaël en tout cas, on voit plus la trace, on suit juste Isaac, et on perd Ismaël, et on le retrouve dans d'autres traditions. On le retrouve dans d'autres traditions, et vous savez que pour les musulmans, l'offrande qu'Abraham a faite n'est pas d'Isaac, mais d'Ismaël. Donc pour eux, ce n'est pas Isaac qui a été offert en holocauste, qui allait être offert, mais c'est Ismaël. Bon, voilà. Et puis la Bible, en tout cas, nous dit déjà qu'il va être en opposition par rapport à ses frères, dès le départ. Voilà, bon, ça c'est un peu en dehors, mais c'était juste pour évoquer ces figures de femmes, quand on parle de Marie, mais du coup, effectivement, c'est Sarah qui devient plus la préfiguration de Marie. Voilà, Agar, elle a sa place, et voilà, il faut qu'on découvre encore, mais elle n'est pas dans cette, elle n'est pas dans la
De sa
suite.
place en regard de la promesse que Dieu a faite,
Oui, oui,
relève-toi
oui,
à cause de cet
oui,
enfant-là.
oui, aussi, c'est bien
C'est
ça, bien
la
sûr.
promesse du relèvement.
Oui, non, c'est très bien, vous avez raison, parce qu'effectivement, on parle des larmes des mères qui
Oui.
donnent la vie au fils. Et du coup, Agar, par ses larmes aussi, a donné la vie à son fils, oui. Donc, elle rentre dans cette grande tradition des mères qui participent par leurs prières, par leurs intercessions, par leurs larmes surtout, à la vie de leur fils, oui. Donc, Agar,
Pas
c'est
arrêter
une...
d'appeler ces personnes-là, relève-toi de n'importe quelle
Ouais.
situation, mais avec le relèvement christique de Jésus,
Ouais.
son habitation d'humanité christique,
Ouais,
que par la
ouais,
nativité de Noël,
ouais,
tout mystère éclate, là.
ouais, tout à fait.
OK, merci.
Donc voilà, donc effectivement, on a regardé là comme ça rapidement toute cette tradition dans la Bible des mères qui obtiennent par leur intercession et surtout par leurs larmes, encore une fois, la réanimation pour certaines et la résurrection. Pour Marie et pour toutes celles qui suivent Marie, c'est-à-dire pour l'Église, combien Dieu accueille ses larmes pour insuffler la vie. Donc, alors, nous, on dit dans notre tradition, on ne peut pas encore en faire ni un dogme, ni le proclamer pour ne pas. Voilà. Mais quand on parle de Marie co-rédemptrice, mais parce que nous sommes tous co-rédempteurs les uns des autres. C'est-à-dire que, et encore une fois, comme on a dit hier, c'est pas que Dieu n'aurait pas pu nous sauver unilatéralement, et comme ça, donc juste, on serait des adorateurs de Dieu. S'il voulait seulement des adorateurs, c'est pas très compliqué. Il suffit que Dieu fasse tout, et on serait tous des grands adorateurs de Dieu. Mais il veut aussi une communauté, c'est-à-dire des gens qui s'aiment entre eux. Et pour que les gens s'aiment entre eux, le meilleur moyen, comme on a dit, et vous vous rappelez le premier jour, la gloire, notre gloire, c'est de participer les uns à la vie des autres. Et donc Dieu a voulu non seulement qu'on nous soyons sauvés par lui, ce qu'il aurait pu tout à fait faire, mais il a voulu aussi qu'on soit sauvés les uns par les autres, qu'on soit des co-rédempteurs les uns des autres, parce que comme ça, c'est le meilleur moyen de nous aimer. Comment aimer plus que de transmettre la vie ou de la recevoir? C'est le plus grand acte d'amour, c'est de donner la vie à quelqu'un. Et du coup, ça, c'est un amour éternel. Du coup, quand on participe les uns aux autres à cette vie éternelle, c'est-à-dire que par ma prière, par mon intercession, par mes larmes, je peux obtenir la grâce de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint pour quelqu'un, eh bien, cette personne me sera reconnaissante pour toujours. Et moi, je peux vous dire que je suis reconnaissant jusqu'à l'éternité de ceux qui ont prié pour moi pour que je reçoive l'Esprit Saint. Du coup, voilà, ça crée la communauté. Ça crée la communauté parce que on est aussi sauvés les uns par les autres. Et je peux vous dire une chose qui m'a beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'on vit des conversions, on vit de conversion en conversion, mais je pense que c'est très important, et c'est là une expérience qui nous manque beaucoup, de dire je suis sauvé par les frères. Les frères me sauvent, et pas seulement Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ bien sûr. mais aussi à travers les frères. J'espère que je suis assez précis parce que des fois on peut déraper avec des petites nuances, mais je veux dire que la communauté nous sauve, la communauté chrétienne nous sauve. Et ça va augmenter mon amour pour la communauté. Je ne suis pas dans la communauté seulement parce que Jésus m'a commandé d'aimer, comme si c'est un devoir d'aimer. C'est beaucoup plus profond, c'est quand je suis saisi à quel point la prière de cette communauté, la prière des frères, me sauve vraiment.
La fidélité de la prière de la communauté nous sauve de notre infidélité d'une certaine manière, parce qu'on a tout à un moment donné des moments d'infidélité, ça peut être ça.
Oui, ça peut être variable d'une personne à l'autre. Chacun doit pouvoir dire Jésus-Christ m'a sauvé. Ça, c'est impossible de ne pas le dire. On doit absolument être enraciné dans le fait que Jésus-Christ m'a sauvé. Mais il faut pas oublier aussi que la communauté me sauve, c'est-à-dire au moins elle m'empêche de me perdre, au moins négativement. Vous voyez, si je suis pas conscient à quel point aussi la communauté me sauve, je vais avoir du mal à aimer. Parce que mon salut dépend de ces gens-là. Et ma vie éternelle dépend aussi de la communauté. C'est pas juste voilà une relation unilatérale encore une fois, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas qu'il aurait pas pu. C'est juste pour créer ce corps qui s'aime. Vous voyez? Et donc je ne sais pas si on revient à la vie humaine très très basique. Si quelqu'un se jette pour me sauver parce que je me noie, combien je vais l'aimer? Je vais avoir beaucoup d'amour pour lui, c'est plus un devoir. C'est pas Dieu qui m'a dit aime cette personne-là. Ça devient beaucoup plus profond, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus naturel et beau. Vous voyez, donc quand je suis conscient que telle personne m'aide, je vais l'aimer beaucoup plus naturellement, c'est pas un commandement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous manque un peu. Ça nous manque cette conscience de comprendre comment on participe les uns aux autres par notre prière, par nos larmes, encore une fois, par nos intercessions, et on participe à la vie des uns des autres. On se donne la vie, l'un à l'autre. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui. Il y a aussi beaucoup de saints qui disent, même la petite Thérèse, il dit, mais moi, je ne sais pas quelle peut-être sœur du XVIIe siècle a fait quel sacrifice, je ne saurais ça qu'au ciel, qui aujourd'hui me permet, à moi, d'avoir autant de clarté dans ma vie spirituelle. Bon, je dis, c'est pas ces mots-là. Mais pour dire, elle était consciente que ce qu'elle vit est un don de Dieu et une intercession des autres. Et c'est les deux en même temps. Dieu qui m'a donné ses grâces, mais aussi quelqu'un a dû prier pour moi, c'est impossible. Quelqu'un a dû prier pour moi. Ça ne marche pas sinon. Et du coup, voilà, c'est les deux en même temps. Et du coup, Marie, voilà, on revient un peu au thème de la matinée. Marie, un peu cette icône de la prière, cette icône des larmes, mais pas des larmes encore une fois qui nous écrasent, mais des larmes qui nous donnent la vie, des larmes qui nous insufflent une vraie énergie de vie. Et donc Marie devient l'icône un peu de l'Église, de chacun de nous, qui sommes aussi invités, pas seulement à la passion, à porter la croix, mais aussi à la compassion. La compassion.
Mais ça passe.
Ouais.
Ça passe beaucoup, je trouve, aussi par le quotidien. Moi, je
Oui.
regarde concrètement si quelqu'un qui travaille à salaire minimum n'avait pas payé ma pension aujourd'hui, je n'aurais pas pu avoir accès à ce que j'aspirais de loin en moi.
Ouais.
J'aspirais tellement, je ne sais pas pourquoi, mais là, je le sais maintenant,
Ouais.
pourquoi j'aspirais tant à être ici. Entendre le vrai de vrai, là, parce que moi je suis après décollée à 80 ans du non vrai,
Ouais,
du
bah
pas
oui, c'est
vrai.
toujours le temps.
Alors, mais si quelqu'un m'avait pas offert ça, là, moi j'aurais pas pu être ici à
Ouais,
cause de
ouais,
mes conditions, puis regarde personne,
ouais,
mais en même temps, ça part du quotidien
ouais.
aussi. Si c'est comme dans le détail, ce que je peux, à travers une écoute au téléphone, ce que je peux offrir, ben, si je ne l'offre pas, l'autre ne le recevra pas, puis
Oui.
vice-versa.
Oui.
Ce n'est pas seulement intercéder pour moi, c'est aussi incarner, laisser à Dieu la chance d'incarner ce qu'il veut bien
Oui.
quand c'est donné.
Oui.
Mais là, il n'y a plus d'effort de volonté, puis il n'y a
Oui.
plus. T'sais.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire
Au
que.
quotidien.
Oui, et puis c'est beaucoup plus naturel, c'est-à-dire encore une fois, l'amour n'est plus un commandement et qu'on fait semblant à sourire, à voilà, essayer d'être gentil et tout ce qu'on sait faire. Mais c'est beaucoup plus profond parce que je suis reconnaissant. Et donc la reconnaissance ouvre à l'amour. Je suis reconnaissant dans le sens où je suis conscient que cette personne-là participe à ma vie. Vous voyez, donc voilà.
J'ai ça pour moi, la vie éternelle en chemin,
Oui,
dans le quotidien, les
exactement.
uns par rapport aux autres.
Oui.
Puis accepter que de beaucoup de monde, je ne pourrais pas recevoir ça.
Oui, c'est ça.
Même si je donne beaucoup,
Oui,
le réel fait
oui.
que ce n'est pas possible.
Oui, tout à fait.
D'où ça, je peux pleurer pour ça.
Oui. Oui.
Ce que vous dites me rappelle cette réplique à quelqu'un qui disait devant une catastrophe, beaucoup de gens sont souffrent. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien?
Ouais.
Alors la réponse était si, tu as fait toi.
Oui.
Tu es en bonne santé, tu
Oui.
peux aider.
Oui.
Et souvent, on ne pense pas à ça.
Oui.
Je pense que c'est parce qu'on attend que Dieu, on veut qu'il fasse tout seul, c'est un Dieu, c'est une idole,
Ouais.
c'est pas notre Dieu à nous.
Bien sûr. D'ailleurs, en disant ça, bon, c'est un truc que moi je fais, mais c'est pas obligé que ça soit ni vrai ni pour tout le monde. Mais quand on dit les litanies universelles, Seigneur, pense à tout. Je me dis moi-même que le Seigneur nous prie de la même manière. Michel-Marie pense à. C'est-à-dire qu'il me renvoie aussi. C'est-à-dire que nous, on dit à Dieu, aide les personnes en Afrique qui, je ne sais pas ce qu'ils ont, on fait notre prière universelle. Et pendant cette prière universelle, j'ai l'impression que Dieu nous dit à nous aussi, n'oubliez pas, voilà, Seigneur, souviens-toi. Est-ce qu'il a oublié? C'est nous qui avons oublié, lui, il n'a rien oublié. Donc, Donc il me dit Michel-Marie, souviens-toi. Donc il me renvoie tout de suite à l'Esprit Saint qu'il m'a donné et qu'il me dit que aussi toi tu peux faire quelque chose. Voilà, pour redire un peu la même chose que vous venez de dire, oui. Voilà. Oui.
Des larmes de joie,
Oui.
ce n'est pas le même visage que des larmes de souffrance.
Oui.
Et jamais qu'on voit un visage heureux avec des larmes. Jamais qu'on a vu ça.
Alors, j'ai pas compris. C'est-à-dire que les personnes qui pleurent n'ont pas un visage heureux, c'est ça? C'est ça, j'ai pas compris l'idée au fait.
Veux dire que des larmes de joie,
Oui.
un beau visage quand même. La joie, c'est dans le visage
Oui.
aussi. Alors que des larmes de souffrance,
Oui, ça referme le
c'est pas le
visage,
même visage.
oui.
On n'a jamais vu des icônes ou des images
Oui.
de larmes de joie.
Alors oui, c'est-à-dire il faut faire attention, les larmes de joie, c'est pas qu'on se sent joyeux au moment où on les verse, parce qu'il y a, on est peut-être pris, je ne sais pas, on a pleuré sur un malade, ou bien on a pleuré pour un pécheur, pour sa conversion. Au moment même, c'est pas de la joie qu'on ressent, mais c'est pas des larmes qui écrasent. C'est des larmes qui sont douces, qui sont des larmes de. Elles n'apportent pas cette, voilà, ce visage très, très fermé, au contraire. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a Sainte Catherine de Sienne, si vous voulez lire, qui a écrit un traité sur les larmes. Bon, c'est pas la peine de le lire parce que c'est un peu long, puis c'est de son époque, donc nous, ça devient un peu incompréhensible. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il y a vraiment des larmes qui portent la joie. C'est peut-être pas au moment où on les verse, mais c'est comme tout de suite après, comme fruit. Il nous porte à une joie, à une sérénité. Vous voyez, alors qu'il y a des larmes qui nous abattent et qui nous pèsent et qui, voilà, qui sont des larmes de mort, elle dit, elle, c'est un peu fort. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des larmes, au moment même, c'est pas, on ne ressent pas une joie, mais ils nous portent à la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Excusez, est-ce qu'on pourrait
Pardon.
comparer ça à Saint-Dominique qui pleurait
Oui,
beaucoup?
bien sûr. Beaucoup de
Il
saints
avait
ont
des
pleuré,
larmes.
beaucoup de saints ont pleuré.
Saint-François aussi.
Saint François, il a failli être aveugle à cause des larmes.
Voilà.
Donc oui, c'est un don de Dieu, le don des larmes, ça s'appelle.
Le don des
Oui,
larmes.
oui.
Vraiment, mon expérience à moi, je réfléchis sur les larmes, vous l'avez dit, c'est que pour moi, les larmes de douleur, pour moi, vous l'avez dit, j'en ai vécu,
Ouais.
mais ça brûle les yeux.
Ouais.
Pour moi, ça brûle les
C'est
yeux,
vrai.
ça chauffe les
Oui,
yeux.
oui, oui.
Pour moi,
Physiquement, c'est
c'est pour
vrai.
les larmes de douleur,
C'est
pour ça.
vrai. C'est vrai, alors que les larmes douces, elles coulent toutes seules.
Oui,
C'est vrai.
c'est ça.
Oui,
C'est la
oui. Oui,
différence.
même physiquement, on sent la différence des fois.
Franchement, moi, même chose,
Ouais.
c'est humain.
Hein?
C'est ça que j'appelle ce vivre humain.
Oui, hein, ouais.
Capable de dire ça, ça chauffe.
Ouais, ça chauffe, donc j'y vais pas. Là, ça me fait du bien. Oui. On a le discernement. Pardon, oui.
Je dirais les larmes sont comme enrobées de l'Esprit Saint, sont comme soutenues par l'Esprit Saint. Ils ne sont pas rattachées à une émotion qui vient de toi.
Oui, aussi, effectivement.
Mais c'est comme
ça jaillit, quoi.
Oui.
Et on ne peut pas les provoquer, au fait. C'est un don. C'est un don, effectivement. Mais juste, encore une fois, au-delà du don des larmes, qui est une grâce particulière que tout le monde ne peut pas avoir, c'est vraiment la figure de Marie aujourd'hui de la compassion. C'est-à-dire de faire nôtre, et d'accueillir dans notre cœur est-ce que quelqu'un peut vivre. Et encore une fois, de ne pas avoir peur, parce que accueillir dans notre cœur, ça ne veut pas dire nous écraser par les misères du monde. Au contraire, il faut en faire l'expérience, parce que ce que je peux vous dire peut sembler un peu contradictoire. Mais l'expérience nous fait dire que accueillir la souffrance de quelqu'un dans mon cœur ne veut pas dire être écrasé par cette souffrance. Au contraire, c'est soulager sa souffrance et alléger mon cœur parce que mon âme chrétienne, ma conscience chrétienne, elle ressent elle est heureuse quand j'ai pas tourné le regard ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à exprimer bien l'idée, quoi. Voilà.
Quand je regarde la télé, je voyais la semaine dernière le petit bonhomme qui a vu tuer sa mère, qui a été traîné par le bonhomme qui l'a tué. Tout ce que cet enfant-là de 9 ans a été obligé d'aller partager au tribunal aussi.
Pardon? Oui.
Il a été obligé d'aller témoigner de ce qu'il avait vu, de sa mère qui se faisait maganer par cet homme-là. Donc, souvent, c'est le phénomène des larmes de sang en moi, quand j'écoute ça, mais comme vous dites, c'est en communion avec Marie ou avec les larmes de sang du cœur de Jésus, parce que je n'ai pas à fusionner à la douleur à ce point-là, mais juste regarder les nouvelles, moi, en tout cas, des fois, je me dis, il y a quoi pleurer des larmes de sang humainement, même si c'est pas proche de toi, ton humanité est concernée par ça.
Oui, oui. Vraiment juste parce que effectivement des fois, la limite peut être très fine, mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, c'est que ça ne nous enlève pas la joie. Ça ne nous écrase pas. C'est-à-dire, quand on sent qu'on est un peu écrasé, bon, sauf appel particulier de Dieu, on peut dire là, je suis limité, je ne peux pas prendre sur moi tout le monde, quoi. Même nous, prêtres, des fois, on va dire, moi, je ne peux pas t'écouter encore, il faut que tu ailles devant le Saint-Sacrement, parce que mon humanité ne me permet pas d'aller au-delà de cette compréhension de ce que tu vis, ou de l'accueil de ce que tu vis, c'est humain. Mais c'est là, ce que j'ai dit hier, on évite l'idolâtrie, on renvoie vers Dieu, on dit oui, bon là c'est ma limite quoi. Donc on ne peut pas prendre sur nous les misères du monde parce qu'il n'y a que Dieu qui peut porter la croix du monde quoi. Mais nous on est appelés un petit peu à ça, un tout petit peu, voilà. Oui.
Moi je voudrais juste témoigner de ce que la dame vient de dire. Mon mari et moi, on avait l'habitude d'écouter les nouvelles sur l'heure du souper, puis je me rendais compte que tout ce qu'on entendait, ça me révoltait.
Oui.
Ou ça m'écrasait un
peu,
me sentir. Ça fait qu'on a décidé qu'à l'an dernier, durant le temps du carême, qu'on coupait la télévision.
Oui.
Puis ça a été un grand bienfait.
Ouais.
Grand bienfait.
Oui.
Puis je pensais à Sœur Lucie qui disait dans son couvent, on lui demandait comment vous allez faire pour savoir que Sœur Lucie de Fatima, comment vous allez faire pour savoir que... Comment va le monde? Puis elle a répondu, si la Sainte Vierge veut que je le sache, elle sera bien me le dire. C'est comme ça que moi je l'entends aussi. Les informations que j'ai de personnes qui sont souffrantes, je les entends dans mon quotidien et j'y réponds parce que le Seigneur m'appelle, m'amène vers ces gens-là. J'ai la force de le faire à ce moment-là parce que je ne me laisse pas envahir par parce qu'on n'a pas
La capacité d'absorber tout cela, sachant que avec vraiment, moi je suis quelqu'un qui suit les infos régulièrement, mais il faut être conscient qu'ils sont faits pour pas déprimer, mais pour ne pas donner de l'espérance quoi. ils ont pas un, ils sont pas dirigés vers on va s'en sortir. Plus ça va mal, plus ça plaît. Donc, et du coup, c'est construit d'une manière qui écrase, en tout cas, quoi. Plus c'est mauvais, plus c'est dramatique, plus ça attire. Donc déjà, par principe, c'est comme quelqu'un qui vient nous raconter et il exagère toujours ses problèmes. Non, c'est-à-dire que celui qui parle dignement de ses problèmes, on peut l'écouter. Mais si quelqu'un vient et qu'il veut juste se débarrasser de ses problèmes sur moi, je peux lui dire non. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas à ça qu'on est appelé à être la, pardon du mot, mais la poubelle du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas appelé à juste accueillir toutes les misères parce qu'ils le jettent sur nous, non, c'est pas ça. Mais merci d'avoir dit ça, parce que du coup, ça permet d'équilibrer le discours en disant que nous, chrétiens, on est plus appelés à l'écoute personnelle, un à un, des personnes dignes, qui savent dire leurs problèmes dignement, et qui savent être aussi vraiment très réservés, voilà. Ça oui, mais quand ça devient trop envahissant et trop écrasant, on peut dire non, sans aucun scrupule, quoi. Sans aucun scrupule. On n'est pas, surtout quand on sent, même au-delà des nouvelles, il y a des gens, malheureusement, qui aiment peser sur les autres, en tout cas leur... voilà, et ça, on peut un peu, mais à un moment, on sent que ce n'est pas juste, quoi. Vous voyez, mais merci. Oui, l'air de sensationnel, on exagère nos histoires, on raconte que ce qui va mal. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non. Vous voyez, c'est pas digne, quoi. Ça manque de dignité, ça manque... Et du coup, on peut avoir un... Voilà. On peut très simplement dire non, mais merci, parce que ça équilibre un peu le discours pour ne pas penser qu'on est appelé à juste accueillir sans mesure toutes les misères du monde, quoi. Je vous ai pas entendu, après vous allez me dire par rapport... Bien, tous les deux. Vous n'avez pas de questions sur... Okay. Voilà. Alors, il y avait quelqu'un peut-être qui avait une question? Oui.
Je voulais juste ajouter à ce que vous dites. Moi, je suis en milieu d'affection. Puis j'ai décidé d'arrêter de faire des productions télévisuelles à cause de ça. Mm. Exactement. C'est vraiment le but des médias communautaires.
Ah, vous étiez dans la production? Oui, donc vous voyez, vous connaissez de l'intérieur un peu, oui.
Et c'est, moi, ça me fait cette violence, parce que j'ai fait ça pendant ma vie. Et tous les romans, les émissions jeunesse, si on s'ouvre les yeux, on s'ouvre les oreilles, c'est vraiment la promotion du découragement. Mmh. Puis, même dans des choses qui ont l'air très, très, très innocentes, puis c'est voulu comme ça.
Oui, 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 c'est construit comme ça.
Il faut appuyer le désespoir, il faut que ça...
Bien sûr.
La curiosité des gens... Même dans des choses qui ont l'air banales. Puis les nouvelles informations, effectivement, c'est seulement l'aspect fantastique qui est appuyé, puis des bonnes émissions comme Second Record
disparaissent. Des émissions de réflexion.
Je continue à travailler dans le milieu télévisuel, mais je ne fais plus de tournage, mais maintenant je fais ceux qui veulent parce qu'ils sont malades. Je deviens quelqu'un qui est à l'écoute de plein de choses. Les gens sont beaucoup en souffrance. Dans ce milieu-là, parce que je pense que qu'est-ce qu'on gêne, on accepte de participer, ça revient sur nous, c'est sûr, c'est souffrant. Puis je ne connais pas beaucoup de gens dans ce milieu-là, puis c'est bien de ne pas écouter la télévision, l'information peut l'avoir par certains journalistes ou juste un petit mot par la radio, puis on en sait assez, on n'a pas besoin de se faire torturer le cœur et le cerveau.
C'est le même principe
que
quelqu'un qui veut te vendre absolument quelque chose.
Exactement.
Les ventes,
c'est comme ça.
Tout ça, c'est le monde. Le monde.
Ouais. C'est exactement ça. Donc, il y a une vraie volonté, du coup. Encore une fois, ce n'est pas à cette écoute-là qu'on est invité, parce qu'elle n'est pas juste, quoi. Elle n'est pas construite dignement, encore une fois. Donc, voilà. Puis bon, j'en ai pas parlé, mais il y a les fameuses larmes de Marie-Madeleine, qui sont aussi un autre type de larmes. C'est la femme amoureuse et qui a compris que, voilà, tout ce que l'amour peut souffrir. Donc vraiment, Marie-Madeleine et Marie se complètent. Ces deux figures, elles sont... Il faut qu'elles aillent de pair. Vous savez que pendant longtemps... Pardon ? Oui, oui. Au pied de la croix, oui, oui, oui. Au pied de la croix, toujours, oui. Toujours au pied de la croix, de voir le bien-aimé, encore une fois. Surtout qu'elle reconnaît que c'est aussi pour elle. Vous voyez, elle reconnaît que cette croix, c'est pour elle. Donc il y a quelque chose de très fort qu'elle vit, Marie-Madeleine, parce qu'en même temps, elle est amoureuse et en même temps, elle voit que c'est à cause de certaines de ses actions que le Christ, donc il y a une sorte de mélange en même temps d'amour infini. Et vraiment pas de culpabilité, parce que ceux qui ont fait l'expérience de la miséricorde savent que Dieu n'a jamais, ne pèse sur les âmes par la culpabilité. C'est vraiment pas Dieu. La culpabilité ne vient jamais de Dieu, au contraire. Mais on reconnaît, et du coup ce que je vous ai dit hier, que ce péché a participé à ça, et du coup on commence à le détester. Du coup il n'y a pas de la culpabilité, mais il y a une sorte de larmes qui reconnaissent que c'est aussi le péché et qui a conduit à ça. Et du coup, les larmes de Marie-Madeleine sont très, très belles aussi.
Vous n'avez pas parlé des larmes de repentir. Moi, j'ai vécu juste une fois les larmes, et c'était le repentir.
Oui, c'est moi, plus... Oui, il y a les deux, hein. Les larmes de repentir, c'est plus comme icône Marie-Madeleine.
C'était pas si doux.
Non, le repentir, c'est pas quelque chose qui écrase, comme on disait, voilà. Oui. Et du coup, et puis donc c'est Marie-Madeleine l'icône, et puis Marie, c'est plus les larmes qui donnent la vie au Fils, quoi, qui intercèdent. Et les deux vont ensemble. On peut des fois être pris par des larmes de repentir qui ne sont pas pesantes, qui sont des larmes qui donnent la vie pour nous. C'est-à-dire on regrette des choses qu'on a faites, mais on ne se sent pas coupable. Et du coup, on pleure, mais ça nous donne la vie. C'est ce qu'on appelle le baptême des larmes. C'est qu'on est régénéré spirituellement par les larmes. Oui, on est régénéré dans l'amour par ces larmes. Et puis, il y a les larmes d'intercession qui peuvent aussi être des larmes pour quelqu'un d'autre, pour qu'il reçoive la vie. Quoi. Voilà.
Il n'y a pas les larmes du pardon aussi. Ça fait très mal de pardonner. C'est très souffrant.
Ah oui, c'est-à-dire que quand nous, on pardonne.
Oh, oui.
Quand nous, on pardonne, oui. Oui. Encore une fois, Sainte Catherine de Sienne, mais beaucoup d'autres saints, ils ont fait un catalogue des larmes en les classifiant. Non, mais c'est vrai. En les classifiant, en disant quelles étaient celles qui étaient bonnes, celles qui étaient mauvaises. Donc bon, ils ont... Non, mais c'est vrai. Hein. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'on a tout compris aujourd'hui, alors qu'ils ont compris beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes et importantes dans le passé. Les émotions, par exemple. Nous, on est très... pas très fin sur l'interprétation de nos émotions. Mais du coup, les larmes, quand nous, on pardonne à quelqu'un, je ne sais pas, mais... Non, c'est-à-dire que moi, ce qui me vient comme ça quand j'entends ça, c'est que c'est comme si on reconnaît qu'on a été blessé. C'est-à-dire que comme si on repleurait un peu sur nous-mêmes, sur la blessure qu'on a vécue, et qu'on abandonne. Vous voyez, cet abandon de cette blessure, parce qu'on est obligé, quand on pardonne, d'abandonner. Et du coup, ça nous fait revivre un peu cette blessure. Vous voyez, par exemple, un mari qui a trompé sa femme, la femme décide de lui pardonner. Au moment, elle doit, pour une dernière fois, pleurer cet événement. Parce qu'après, c'est fini. Allez, c'est pardonné, je ne sais pas. Mais bon, pour dire que c'est... Bon, j'interprète ça comme ça, mais c'est vrai que c'est des larmes particulières, de miséricorde aussi, oui. Parce qu'on a accordé le pardon à quelqu'un. Donc c'est bien. Ouais.
Tu sais, quand quelqu'un nous a blessés, souvent, c'est une interprétation de ses intentions. On réalise que, mon Dieu, que j'ai mal discerné ce qu'elle voulait.
Ouais. Cette personne. Ouais. Oui, tout à fait. Oui.
Quand j'entendais tantôt, les personnes sont intervenues.
Oui.
Et quand je suis rentrée tantôt dans la cafétéria,
ouais.
Le livre qui est ouvert des règles monastiques, là, ici. La pensée du jour, au fond, c'était, résumé comme ça, je pense, ça vient de Jean, ne pas être dans l'esprit du monde, mais être dans la réalité du monde.
Ah, c'est beau ça. Oui, très bien.
C'est un peu ça qu'on exprimé. On ne rentre pas dans l'esprit du monde
qui veut nous écraser, oui.
Être dans la réalité. Si.
Très bien dit. Oui, on est invité à être dans le réel, mais pas dans l'esprit du monde, oui, tout à fait. Parce que des fois, pour fuir l'esprit, on fuit le monde aussi. Ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que parce qu'on veut fuir l'esprit du monde, on va fuir le monde. Et ça, non. Il faut qu'on fuit l'esprit, mais qu'on reste dans le monde. Et ça, c'est pas...
C'est tout un art.
Tout un art. C'est l'Esprit Saint. Moi, quand je tourne le problème dans tous les sens, il y a un moment, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire ces choses tellement contradictoires. d'être dans le monde sans être du monde, de voilà, d'écouter sans être écrasé, de pleurer sans être déprimé. Voilà, c'est-à-dire que c'est des attitudes qui peuvent venir que de l'Esprit Saint. Parce que humainement, c'est un peu contradictoire. Voilà.
C'est plus la phrase de Jésus, Père, je ne demande pas de les retirer.
Ouais, exactement. De les garder, oui, voilà, c'est exactement ça, la phrase qui dit ça, oui. Voilà, la messe nous attend dans pas longtemps. Si vous avez une dernière. Oui.
Moi, j'aimerais vous entendre peut-être juste cet après-midi. Oui. Qu'est-ce que l'inimitié que Dieu a mis entre Marie et le malin? On dit qu'il a mis comme une hostilité.
Oui.
Comment vous entendez ça?
Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas Marie en tant que personne, mais non. C'est Marie en tant qu'Église. C'est-à-dire qu'on. Oui, et puis ça revient dans l'Apocalypse quand le dragon veut attaquer la femme et qu'elle vit au désert. Donc il y a une inimitié très forte, mais depuis toujours, même le livre de la Sagesse, il le dit, le mal est entré dans le monde par la jalousie du diable. Donc cette inimitié, le diable, il déteste l'homme, c'est vraiment il est jaloux, en fait, de nous. Pourquoi il est jaloux? Parce que ça va nous rappeler quelque chose d'hier, mais qu'on fera sur une prochaine retraite. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme que le diable n'a pas?
L'amour de Dieu.
Non, le Dieu aime ses anges, parce que le diable est un ange. Hein. Le Dieu aime ses anges. Oui, ça c'est bon, mais ça c'est après la chute.
Sur la retraite, c'est la sponsorité. Est-ce que vous allez revenir sur la sponsorité?
Sur la sponsorité. Il n'y a que l'homme qui est responsable, l'homme, l'humanité. Responsable, c'est-à-dire qu'il peut s'unir à Dieu intimement. L'ange n'est pas appelé à la sponsalité. L'ange n'est pas appelé la seule nature, l'unique nature créée de toutes les natures, parce qu'il y a une infinité de créatures sur la terre, c'est-à-dire que, en tout cas que Dieu a créé, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, il y a une infinité de créatures. Et l'unique qui peut s'unir intimement, pour ne plus utiliser responsabilité, l'unique qui peut s'unir profondément et intimement avec Dieu, c'est l'homme, c'est pas les anges. Donc vous voyez, quand on dit que Dieu a élevé Marie au-dessus des anges, c'est parce qu'elle est l'unique qui peut avoir cette responsabilité avec Dieu, donc elle a été élevée au-dessus des anges. Il ne peut pas s'unir dans la responsabilité. Les anges ne sont pas appelés, comme l'Église, à être épouse de Dieu, quoi. Ils ne sont pas appelés. Ils sont des créatures très belles, très sublimes, très élevées, et qui sont au-dessus de l'homme, qui n'est pas uni à Dieu. Donc quand l'homme n'est pas uni à Dieu, les anges sont beaucoup plus puissants que nous. Mais quand l'homme s'unit à Dieu, et c'est ça les saints, quand l'homme s'unit à Dieu, ils sont élevés au-dessus des anges. Et parce qu'ils sont en Dieu, ce n'est pas qu'eux. C'est l'union avec Dieu qui les rend comme ça.
Et est-ce que c'est parce qu'ils sont des purs esprits?
Aussi. Oui, mais c'est pas seulement ça, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de corps. Mais même au niveau de l'esprit, il n'y a pas l'invitation à une union totale avec Dieu. Alors que nous, on est invité à une union totale. L'humanité est capable. Alors.
Les anges vont agir par devoir envers nous.
C'est-à-dire?
Ils vont agir pour nous par devoir.
Oui. Oui, c'est-à-dire qu'au fait, les anges, mais de tout leur cœur, vous savez, Saint Michel, il honore la Vierge de tout son cœur. Vous voyez, c'est pas juste, ils sont pas des serviteurs, mais c'est vrai que Marie a été élevée au-dessus des anges. Marie, elle est humaine, donc c'est l'humanité, c'est pas Marie de Nazareth. C'est l'humanité qui a été élevée par cette union divine au-dessus des anges. Et ça, c'est insupportable pour certains anges. Donc. Donc ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent pour empêcher cette union. Hein? Marie et l'Église, quoi. Chacun de nous. Hein.
Un petit peu misogyne, quoi.
Pardon?
Un petit peu misogyne.
Peut-être, oui.